Le centre d'enseignement au secours d'urgence organisait une journée porte ouverte au centre hospitalier de Digne-les-Bains. L'objectif, de sensibiliser le public aux risques collectifs. Journée organisée par le centre d'enseignement des soins d'urgence, une opportunité de sensibilisation du public aux risques collectifs qui nous entourent et la possibilité de mettre en avant le travail essentiel dans le domaine des soins d'urgence. Au micro d'Odile Frison, tout d'abord Yann Coulon, médecin, directeur médical du centre d'enseignement des soins d'urgence, puis Thierry Dumas, ingénieur en radioprotection. Vous pourrez écouter le discours de Yann Coulon pour présenter la journée. On va peut-être commencer par ça d'ailleurs.
Je suis honoré de vous accueillir aujourd'hui au centre hospitalier de Digne-les-Bains pour notre journée portes ouvertes sur les risques collectifs organisée par le centre d'enseignement des soins d'urgence, représenté par notre cadre qui fait un grand travail, et puis moi-même. Et on a tous nos formateurs ici et qui donnent de leur temps. Cet événement revêt une importance capitale car il nous offre l'opportunité de sensibiliser le public aux risques collectifs qui nous entourent et de mettre en avant notre travail essentiel dans le domaine des soins d'urgence et de renforcer notre engagement envers la sécurité et la santé de notre communauté. La question des risques collectifs n'a jamais été aussi prégnante dans nos vies, il y a encore l'actualité qui est là pour le prouver, que ce soit des catastrophes naturelles, des crises sanitaires, les accidents industriels ou encore les menaces terroristes. Nous sommes constamment exposés à des situations où une réponse rapide et coordonnée est nécessaire pour minimiser les pertes humaines et les dommages matériels. Le centre d'enseignement des soins d'urgence a été créé en 2007 sur le site de Digne-les-Bains, car son établissement hospitalier est donc siège de SAMU. Le CESU a pour mission de former et de préparer les professionnels de santé et concourt à promouvoir la formation des divers intervenants et des bénévoles pour faire face à ces situations critiques. Effectivement, on a des contacts avec la Croix-Rouge, la Sécurité civile. On essaye d'avoir des contacts fructueux avec le SDIS et les personnels des transporteurs sanitaires qui concourent tous ensemble au secours. Notre équipe est donc composée de professionnels de l'urgence qui travaillent à fournir des formations variées avec des ressources pédagogiques adéquates, de qualité et des simulations réalistes, je pense à certains, qui permettent aux participants de développer des compétences nécessaires pour intervenir efficacement lors des situations d'urgence. Cette journée porte ouverte donc est l'occasion pour nous de vous présenter notre centre, nos installations, nos programmes de formation et de vous donner un aperçu de notre approche multidisciplinaire en matière de gestion des risques collectifs. Nous sommes fiers de collaborer en gestion de crise avec les acteurs de médecine d'urgence, de la sécurité civile donc, et représentés par le SDIS aussi, de la cellule d'urgence médico-psychologique aussi. Donc tout ça pour former et préparer des équipes à faire face à tout type de situation. Nous sommes également reconnaissants envers nos partenaires, les autorités locales. On a eu des contacts corrects avec l'ARS. Enfin, pas tout le temps, mais bon. Voilà, vous nous connaissez. Hein. Les médecins, ils ne sont jamais tout à fait honnêtes. Bon, donc, nos tutelles aussi, l'État, en fait, la préfecture. Les organismes de secours aussi qui nous reconnaissent dans notre mission de formation. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. Au cours de cette journée, on aura l'occasion de découvrir les moyens et dispositifs pouvant être déployés en situation de crise. On aura possibilité d'avoir des petites démonstrations et des ateliers de formation divers et variés entre le secours à personne et les techniques médicales de décontamination. Je tiens à rappeler que la préparation et la formation sont les clés de la gestion efficace pour les risques collectifs. Notre engagement envers cette mission est inébranlable et nous espérons que cette journée portes ouvertes vous inspirera à vous impliquer aussi davantage dans cette préparation aux situations d'urgence. Car ensemble, nous pouvons construire un avenir un peu plus sûr et plus résilient pour tous.
Voilà, c'était le discours de Yann Coulon, médecin directeur médical du Centre d'enseignement des soins d'urgence. Tout de suite, on écoute l'interview de Yann Coulon, puis Thierry Dumas, ingénieur en radioprotection. Un reportage Odile Frison.
Je suis donc le directeur médical du CESU. Accessoirement, je suis le président de la CME aussi, donc du centre hospitalier, la commission médicale d'établissement. Donc j'ai des responsabilités un petit peu transversales dans l'établissement. Et bien sûr, je suis praticien hospitalier aux urgences. Et donc ça, c'est mon métier de base. Et je m'occupe du CESU, donc de formation. Et on accueille d'autres personnes qui sont techniques, comme les secouristes un peu particuliers. Les techniques chirurgicales, on essaye aussi. J'ai pas parlé du damage control. C'est les contrôles, je dirais, des fonctions vitales. En fait, on en parle beaucoup actuellement, d'arriver vivant à l'hôpital. Donc eh ben, il faut connaître les techniques et de réanimation, de sauvetage et de maintien dans les structures primaires avant que les gens puissent arriver dans des centres experts. Voilà, les traumatismes thoraciques, par exemple, qui saignent, il faut pouvoir les accueillir, les stabiliser à minima pour pouvoir les faire transférer. De même, là, je parle sous couvert de M. Dumas, qui est notre ingénieur de responsabilité en radioprotection, et qui offre aussi un accueil important à nos équipes, parce qu'on peut avoir, en matière de contamination, et donc des actions à mettre en place qui soient bien coordonnées pour protéger les intervenants et les patients. Des techniques qu'on essaye de mettre en place petit à petit, et on essaye de former les personnels hospitaliers pour répondre aussi à cette demande. Et avec comme corollaire des problématiques de turnover des personnels et de formation qui sont à faire et refaire et refaire. Et voilà.
Donc aujourd'hui, c'est une journée porte ouverte qui s'adresse au personnel hospitalier surtout ?
Alors pour nous, oui, mais on a ouvert ça au public. On essaye d'avoir le maximum de communication pour ne plus avoir peur des secours exceptionnels qui ne regardent pas le public. On est tous impactés. Et on est tous responsables d'actions, d'alerte, de secours immédiats et de secours en chaîne, je dirais. Et donc tout ça, c'est important de pouvoir le communiquer là-dessus.
Et le brevet de secouriste n'est pas forcément suffisant ?
Il est nécessaire pour pouvoir s'aguerrir avec des gestes, mais les secours, je dirais, techniques, demandent une formation particulière. On enseigne des AVGSU, ce qu'on appelle, ça en fait des attestations de formation aux gestes de secours d'urgence. Il y a différents niveaux, 1, 2, et maintenant l'AVGSU spécialisé dans les différentes techniques de décompta, de prise en charge psychologique, de prise en charge en catastrophe et en damage control. Tout ça, c'est déclinable, pas à l'infini, mais il y a beaucoup de techniques différentes à mettre en place. Voilà.
Thierry Dumas, ingénieur en radioprotection. Donc moi, je m'occupe vraiment de la sécurité liée aux risques radiologiques, aussi bien du personnel que des patients, ou des patients qui pourraient arriver suite à un incident nucléaire ou radiologique. Et donc, mon rôle, c'est vraiment de mettre à disposition de tout le monde du matériel à la fois de suivi dosimétrique pour s'assurer des doses que le personnel reçoit en termes d'intervention, et également tout ce qui sera donc instrumentation, autrement dit donc le mesurage des taux de radioactivité que pourrait recevoir en fait le patient ou le personnel de la même manière. Le but serait, si par exemple on aurait un incident radiologique, que j'intervienne dans tout ce qui sera donc contrôle afin de pouvoir faire deux circuits patients dédiés selon si le patient sera contaminé ou pas. Si le patient n'est pas contaminé, à ce moment-là, il empruntera le circuit traditionnel au niveau des urgences, du bloc opératoire si nécessaire, ou d'imagerie. Mais s'il il sera contaminé, à ce moment-là, il passera donc par un circuit, par une ligne de décontamination. Voilà, donc l'idée, c'est que le patient, soit il est valide, il peut rentrer donc par la ligne 1, ou s'il est couché donc en brancard, il passera par la ligne 2 à partir de ces tableaux roulants. On déshabillera le patient. Il aura une douche, en fait, de décontamination. Donc tous les effluents radioactifs seront récoltés dans une bâche, puis stockés par la suite dans des containers dédiés. Et le patient ensuite sera séché et rhabillé avant de pouvoir réemprunter le chemin normal. Bien sûr, il y aura de nouveau un contrôle. Donc moi, j'interviendrai pour effectuer de nouveaux contrôles pour m'assurer que le patient n'est pas contaminé.
Si la personne est contaminée, oui. Vous, enfin, les personnes qui l'accueillent doivent être habillées d'une certaine façon.
Tout à fait. C'est là que vous trouvez en fait différents types de tenues adaptées selon le type de risque auquel on est confronté, avec des masques à cartouches qui vont filtrer les aérosols, puisque quand quelqu'un arrive, on ne sait pas s'il est contaminé ou pas, donc forcément il ne faudrait pas que nous on se mette en danger et qu'on se retrouve à notre tour contaminé. Donc on s'habille en fait dans des tenues adaptées, je m'arme de mes contrôleurs, on contrôle les patients à l'arrivée, en sortie de décontat si nécessaire. Mais ensuite, il y a aussi tout ce qui est contamination liée à l'environnement, puisque si les patients arrivent contaminés, ils vont contaminer tout sur leur passage. Donc à ce moment-là aussi, il y aura un gros travail de contrôle de toutes les zones de passage de ce personnel. C'est pour ça que c'est très important de bien délimiter les zones de passage des personnes qui arrivent. Et si besoin, on va alors à ce moment-là, à l'aide de solutions décontaminantes, décontaminer tout le trajet des patients qui auraient été contaminés également et gérer ces déchets ensuite dans des conteneurs dédiés, les mettre en ce qu'on appelle en décroissance radioactive afin que la radioactivité ait assez décru pour rentrer dans les normes de transport. Voilà. Et à ce moment-là, les déchets radioactifs seront acheminés au niveau de l'Agence nationale des déchets radioactifs pour être stockés définitivement.
Alors, ça devrait nous rassurer tout ça, mais...
Et c'est pour ça que c'est utile de faire appel à, on va dire, à des gens qui peuvent avoir mon type de compétences, qui permettent en fait de quantifier les doses de rayonnement radioactif. Là, nous sommes actuellement irradiés. Il y a des rayonnements telluriques qui viennent du sol, cosmiques, dans ce qu'on va boire, manger, lorsqu'on passe un examen médical. Donc, il faut relativiser en fait par rapport à ça. Voilà. Et puis bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, nous n'avons plus le même type de réacteur nucléaire comme il pouvait y avoir à Tchernobyl. C'est pour ça que quand on entend souvent « il y aura un nouveau Tchernobyl », les RBMK, hein, qui étaient ce type de réacteurs, qui étaient particulièrement instables à faible puissance, ne sont plus utilisés de nos jours. En France, nous utilisons des réacteurs à eau pressurisée qui, eux, à faible puissance, annulent la réaction et donc la production d'électricité. Bien heureusement, tout cela est très réglementé, très suivi par notre autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, hein, qui est vraiment sur le qui-vive à ce sujet et qui nous demande tout un tas de contrôles, de procédures, afin de s'assurer qu'on n'ait pas de problème de ce type non plus.
Parce que pour revenir aux centrales nucléaires, on sait qu'il faut constamment refroidir les réacteurs, c'est ça ? Et en sachant qu'on manque de plus en plus d'eau, comment on va faire ?
Ben c'est ce que je vous dis en fait, c'est que finalement, si la réaction en chaîne, on ne refroidit pas assez pour que la réaction en chaîne perdure, elle va se stopper de manière naturelle. Voilà. Donc ces réacteurs à eau pressurisée ne présentent pas ce même type de danger. Après, il y a d'autres types de réacteurs qui sont en train de se développer, hein, justement, qui permettraient peut-être de pallier à ce manque d'eau à venir.
Est-ce que vous avez eu souvent affaire à des interventions de décontamination ?
Simplement en entraînement. Voilà, très sincèrement, non. Dieu merci. Après, je travaillais auparavant en médecine nucléaire. Donc, bien entendu, on avait des patients qu'on traitait avec de l'iode radioactive. Et forcément, hein, leurs excrétas, leur transpiration pouvaient générer un peu de contamination. Mais comme je vous dis, c'est toujours dans des quantités très, très raisonnables. Et heureusement, hein, nous sommes équipés avec des appareils de mesure qui nous permettent de gérer cette contamination et les déchets engendrés de manière tout à fait sécure pour le public et le personnel.